Ok, bon, ben, merci à tout le monde d'être venu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Ligleblond qui va nous parler de physique carolienne. On a déjà eu ici deux séminaires sur la physique carolienne très technique. Nous avons parlé des différents progrès récents sur cet aspect-là. Et Jean-Marc va nous parler de la genèse de cette idée qui date des années 60.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon le son? Bien. Ben, merci pour l'invitation. Je suis très content de savoir que vous avez déjà entendu parler de physique carolienne, ça m'évitera d'avoir à en parler parce que moi j'y connais pas grand chose. Non, mais c'est vrai, je blague pas. Je vais vous raconter un peu la généalogie de la chose. Et donc ce séminaire ne sera pas un séminaire technique, c'est plutôt un séminaire à la fois d'histoire, un peu d'épistémologie et puis un peu d'autobiographie, je dirais. Alors, je l'ai appelé sur le destin inattendu des idées scientifiques parce que, comme vous allez voir, quelque chose de vraiment surprenant, pour moi en tout cas, qui s'est passé. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un témoignage un peu personnel. Et bien que Lewis Carroll lui-même nous ait conseillé de ne pas trop nous pencher sur le passé. Alors, je commencerai parce que ça me paraît important. Aucun travail scientifique n'est jamais un travail individuel ni personnel, et donc il me semble important de rendre hommage à mes prédécesseurs. Et je commencerai bien en amont par rendre un hommage à Paul Langevin, parce que Paul Langevin est souvent sous-estimé, alors que pour les questions qui vont nous préoccuper ici, c'est-à-dire les questions d'invariance, de théorie des groupes, de relativité, il a été vraiment un précurseur tout à fait étonnant, en ce sens que je n'hésiterai pas à dire pour ma part que dès les années 1910, il avait à certains égards mieux compris la relativité que Einstein lui-même. Et que, comme vous allez le voir dans la citation suivante, donc c'est un texte que je vous recommande de lire si ça n'est pas encore fait, de 1911, donc c'est très très tôt, il écrit ceci: c'est un fait expérimental que les équations entre grandeur physique par lesquelles se présentent de la même façon pour différents observateurs, divers systèmes de référence, en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Ceci exige, dans le langage des mathématiques, que ces équations admettent un groupe de transformations correspondant au passage d'un système de référence à un autre en mouvement. Les équations de la physique doivent se conserver pour toutes les transformations du groupe. Et dans une telle transformation, quand on passe d'un système de référence à un autre, les mesures des diverses grandeurs sont modifiées d'une façon qui correspond à la structure même de ces notions. Et ça, c'est très en avance à l'époque. Einstein ne parle pratiquement pas de théorie des groupes, pratiquement pas d'invariance, et il faudra les décennies suivantes, essentiellement les années 30, pour que la théorie des groupes arrive au premier plan et qu'on conçoive son importance. Paul Langevin, dans 1872-1945, était très ami avec Einstein, qui lui-même a écrit en 1947, à la mort de Paul Langevin, et il a écrit: il m'apparaît comme une conclusion inévitable qu'il aurait développé la théorie de la relativité restreinte si cela n'avait pas déjà été fait ailleurs. Donc, beaucoup d'ironie d'Einstein à ce moment-là, mais qui montre bien que Einstein était pleinement conscient de l'apport de Langevin. Alors, la deuxième grande figure que je voudrais saluer, c'est celle de Wigner, 1902-1995. Permettez-moi une question, surtout aux plus jeunes de l'Assemblée. Est-ce que vous avez tous entendu parler de Wigner, au moins? Ou est-ce que certains n'en ont pas entendu parler? Qui n'en a pas entendu parler? Bon, vous en avez tous entendu parler. J'en suis ravi parce que la mémoire a souvent tendance à s'effacer. Et Wigner est en fait l'homme qui a, après le prix Nobel de, enfin avant le prix Nobel 63, qui a mis la théorie des groupes véritablement au premier plan dans la physique théorique des particules fondamentales, du noyau et d'ailleurs de l'atome pour commencer. Et tout ce qui s'est passé par la suite, tous les apports de la théorie des groupes, qu'il s'agisse de la théorie des groupes par rapport aux questions spatio-temporelles ou par rapport aux symétries internes, découlent véritablement de l'œuvre pionnière de Wigner. Dernière petite salutation, alors cette fois-ci à mes maîtres directs, ceux que j'appelle les Wigneriens, c'est-à-dire ceux qui, dans les années 60, essentiellement, ont en France apporté, généralisé, diffusé ce point de vue sur la théorie des groupes, Louis Michel, François Lursa, qui fut mon patron de thèse, et Henri Bacry, avec lequel j'ai eu le plaisir de collaborer à l'époque. Bien, alors, une fois ces préliminaires faits, voici comment est né le groupe de Carol. Son acte de naissance se trouve dans un article de 1965, donc vous voyez que ça ne nous rajeunit pas. Ça va bientôt faire une soixantaine d'années, ce que j'ai beaucoup de mal à croire d'ailleurs. Et c'est un papier que j'ai publié sous un titre que je ne reprendrai pas aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard, en 1965, en français et dans les annales de l'Institut Henri Poincaré, qui est un journal parfaitement estimable, mais dont on ne peut pas dire, surtout à l'époque, qu'il était à l'avant-garde de la physique théorique, en particulier dans la physique des particules élémentaires. Il était encore assez largement dominé par l'influence déclinante d'ailleurs, mais l'influence de Louis de Broglie. Alors pourquoi j'ai publié cet article-là ? Eh bien parce que il ne me paraissait pas valoir vraiment beaucoup plus, en ce sens que je le concevais comme une sorte d'exercice amusant, intéressant, curieux, mais probablement sans grande application. Comment l'idée est-elle née ? Eh bien, ça c'est un point sur lequel je voudrais insister, elle est née en enseignant. Je faisais des cours sur la théorie de la relativité, et je me suis aperçu qu'il y avait un point qui était sous-jacent et qui n'était jamais véritablement explicité dans la façon de passer de la relativité einsteinienne à son approximation de basse vitesse, la relativité galiléenne. Et pour le voir, écrivons les transformations de Lorentz sous cette forme-là, où je prends la vitesse dite de la lumière comme unité, c'est égal à 1, et voilà les transformations de Lorentz bien, bien connues, avec une faute, une erreur typographique d'ailleurs, c'est pas gamma, c'est gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2, vous aurez rectifié de vous-même. Alors, on dit souvent que ces transformations de Lorentz admettent une limite si la vitesse du passage entre deux référentiels est très petite devant 1, devant la vitesse limite, et que on obtient les transformations de Galilée. Encore faut-il ajouter, et c'est là le point crucial, quand on a pris ce choix canonique intrinsèque d'unité, que pour que l'on puisse négliger, comme vous le voyez, le second terme dans la seconde équation et pas le premier, il faut faire l'hypothèse que delta t est beaucoup plus grand que delta x. Autrement dit, qu'on s'intéresse à des intervalles qui sont grands de genre espace. Ce qui est le cas en général, on s'intéresse à des intervalles qui traduisent des influences causales, donc à l'intérieur du cône de lumière, et effectivement, quand on passe à des vitesses faibles, pour ce genre d'intervalle, on a delta t qui est beaucoup plus grand que delta x. Mais vous voyez que cette hypothèse a besoin d'être explicitée, car si jamais je m'intéressais pour des raisons x à une situation inverse, c'est-à-dire à des intervalles grands de genre espace, où delta t serait très petit devant delta x, Alors à ce moment-là, c'est le deuxième terme de la première équation qui devient négligeable et pas le deuxième terme de la seconde, et on obtient des formules de transformation approchées qui sont fort différentes, delta x' égale delta x et delta t' égale delta t moins v delta x. Alors ces formules de transformation forment de façon tout à fait évidente un groupe dont on pourrait penser qu'il n'a strictement aucun intérêt physique puisqu'il s'intéresse à des intervalles grands de genre espace, donc sans relation causale entre les événements qu'il lit. Et alors, c'est pour ça que je considérais à l'époque que ce groupe que j'avais mis à jour, mais qui était là d'une certaine façon, il était sous-jacent de façon évidente, n'avait pas un énorme avenir devant lui, mais qu'il était intéressant, un peu curieux, un peu paradoxal, parce que vous voyez que dans un changement de référentiel, l'intervalle spatial ne change pas. Autrement dit, deux événements qui ont lieu au même endroit auront lieu au même endroit dans tous les référentiels. Par contre, l'intervalle de genre-temps, lui, peut changer exactement comme vous le voulez. Donc c'est effectivement pas du tout conforme à l'intuition que nous avons des événements dans la vie courante. Et c'est ce paradoxe spatio-temporel, cet aspect paradoxal qui m'avait amené à le baptiser groupe de Carroll, en hommage à Charles Dodgson, autrement dit Lewis Carroll, qui aussi bien dans Alice au Pays des Merveilles que dans, et plutôt même plus dans L'autre côté du miroir, explore toute une série de paradoxes spatio-temporels de ce genre-là. Bon, une autre façon de voir les choses, c'est de regarder dans l'espace-temps le cône de lumière. Donc voilà le cône de lumière dans l'espace de Minkowski, dont l'invariance conduit aux transformations de Lorentz, et une façon d'obtenir les transformations de faible vitesse habituelle, c'est la transformation de Galilée, consiste à faire dans les équations, formellement, la vitesse limite, c'est tendant vers l'infini. Je ne me place plus dans le système d'unité où c égale 1. Et donc, si je fais tendre c vers l'infini, j'aplatis le cône de lumière sur le plan t égale constante, t égale 0. Et ça me donne les transformations de Galilée, où cette fois-ci, le cône futur, c'est-à-dire la région causalement relié à l'origine, envahit tout l'espace-temps, sauf peut-être le plan de simultanéité. Mais évidemment, dès lors que vous avez vu ça, vous dites, ah, mais qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'aplatir le cône de lumière sur le plan, je le fermais sur l'axe des temps. Et dans cette condition-là, ça équivaut formellement à faire tendre la vitesse limite vers zéro, et on obtient ce fameux groupe de Carroll. Alors, vous pouvez le présenter donc de plusieurs façons. Soit vous dites « je m'intéresse aux intervalles grands de genre espace », soit vous privilégiez un point de vue purement formel, vous regardez vos équations et vous faites tendre petit c vers zéro, ce qui évidemment physiquement n'a pas de sens, mais ça veut dire que vous considérez des rapports temps sur espace beaucoup plus grands que espace sur temps plutôt beaucoup plus grand que la valeur physique de petit c. Bien, alors je publie ça dans les annales de l'Institut Henri Poincaré en 1965, en le résumant de la façon suivante, les propriétés de transformation d'intervalles grands de genre espace sont décrites par un groupe qui est une nouvelle limite non relativiste du groupe de Poincaré. Ce groupe distinct du groupe de Galilée est obtenu, comme lui, à partir du groupe de Poincaré par contraction. Alors la contraction, j'en parlerai pas ici, mais c'est une transformation entre groupes qui a été introduite par Wigner et Innenu, et qui permet de passer d'un certain groupe par une limite singulière à un groupe qui n'a pas tout à fait la même structure. Cette limite singulière, dans le cas Lorentz allant vers Galilée, c'est la limite c tendant vers l'infini. Et dans l'autre cas, le cas carolien, c'est la limite non moins singulière, petit c, tendant vers 0. Alors j'étudie la structure du groupe, l'algèbre Lie, les formes de représentation intérieure du cube, tout ceci en copiant bêtement le travail que Wigner avait fait en 1939 sur le groupe de Lorentz, de Poincaré plutôt, Lorentz inhomogène, que Bergman, puis moi-même dans ma thèse, avions appliqué ensuite au groupe de Galilée. Donc ça se déroule sans aucun problème. Et je remarque que dans un univers qui aurait ce groupe d'invariance, la causalité serait pratiquement absente. Ben oui, parce que la zone causale de l'espace de Minkowski se réduit maintenant à l'axe des temps. Donc un événement ne peut influer causalement que là où il est, au point identique à lui-même. Il ne peut pas agir de façon causale sur d'autres points de l'espace-temps. Donc, on se rend compte que la causalité est véritablement minimale dans un truc de ce genre-là, et que par conséquent, l'interprétation physique va être quelque peu douteuse. Et c'est pour ça que j'avais proposé de baptiser ce groupe de Carole, en jouant évidemment sur Alice au Pays des Merveilles. Et je considérais à cette époque que les buts de l'article étaient essentiellement pédagogiques, c'est-à-dire permettre de mettre en évidence une condition de validité trop souvent implicite des transformations de Galilée par rapport aux transformations de Lorentz. Donc essayer de bien expliquer aux étudiants, aux chercheurs, dans quelles conditions le groupe de Galilée acquérait sa validité. Donc les buts de cet article, disais-je, sont essentiellement pédagogiques, et je concluais que l'utilisation pratique paraît assez problématique. Et puis, clin d'œil, je disais que la physique théorique s'est montrée particulièrement accueillante à des groupes de toutes sortes et d'intérêt physique pour le moins douteux dans de nombreux cas, et je n'avais pas trop de scrupules à mettre au jour ce cousin dégénéré du groupe de Galilée, du groupe de Poincaré. Bon, et alors, il se trouve, ça c'était une surprise qui m'est arrivée plus tard, cet article est publié en 65, et il se trouve que l'année suivante, un article est publié dans une revue quand même un peu plus connue à l'époque, qui était le Nuovo Cimento, en 66 donc, par un collègue japonais qui publie un article qui s'appelle « Un analogue du groupe de Galilée ». Je ne connaissais pas Sengupta, Sengupta ne me connaissait pas, il n'avait pas vu mon article, et quand le sien est paru, donc quelques mois après le mien, je n'en ai pas eu connaissance. Et donc il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette coïncidence spatio-temporelle, si j'ose dire, entre deux publications très proches l'une de l'autre. Et à la vérité, je ne sais pas à qui revient véritablement la priorité intellectuelle, puisque l'article de Sengupta avait été reçu par le Nuovo Cimento en février 65. Moi, j'ai oublié à quelle date précise je l'avais proposé aux annales de l'Institut Henri Poincaré, mais ça se joue à quelques semaines près. Bon, cela dit, si on voulait vraiment se poser la question de la priorité, je suis intimement persuadé que ni Sengupta ni moi-même n'ont été les premiers à imaginer ce groupe et que d'autres théoriciens avaient joué le même petit jeu, puis s'étaient dit « ouais, bon, mais c'est pas très intéressant, c'est pas très important, ça vaut pas la peine que je le publie ». Donc si priorité il y a, la priorité proprement intellectuelle nous échappe à tout jamais, et la propriété de publication, eh bien, elle reste pendante. C'est pour ça que je tiens véritablement à citer l'article de Sengupta. Alors, il se trouve que l'une des raisons qui ont fait que pendant très longtemps, mon article a été cité, fort peu au début, comme vous allez le voir, mais qu'il est resté, qu'il a été cité plus souvent, assez nettement plus souvent que celui de Sengupta, c'est probablement le fait que j'ai eu un petit coup de com' en l'appelant le groupe de Carole. Ça a joué, manifestement, c'était un bon coup de pub, alors que chez Sengupta, il n'y a rien, un analogue du groupe de Galilée, etc. Comme quoi, la façon dont on dénomme les choses n'est pas sans intérêt ni sans importance. Alors, peut-être je voudrais revenir légèrement en arrière sur des questions de terminologie, un petit excursus terminologique. Parce que si c'était possible, je changerais le titre de cet article qui s'appelait, comme vous l'avez vu, « Une nouvelle limite non relativiste du groupe de Poincaré ». Eh bien, il me semble que cette épithète de non-relativiste, nous devrions la bannir de façon absolue. Pourquoi ? Ben parce que les dictionnaires vous disent non-relativiste, qui ne se réfère pas ou ne repose pas sur la théorie de la relativité, implicitement ou explicitement, la théorie de la relativité restreinte. Le terme n'apparaît sous cette forme-là que vers 1930, en vérité. Mais le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que le principe de relativité, il est compatible avec plusieurs théories spécifiques de la relativité. Ben oui, celle de Lorentz, Einstein, Poincaré, etc. Mais aussi celle implicite de Galilée et de Newton. Je dis implicite, encore que chez Galilée, c'est tout à fait explicite, il n'emploie pas le mot relativité, bien entendu, mais il y a un magnifique passage dans les dialogues sur les deux grands systèmes du monde, à moins qu'il soit dans les... Je ne sais plus si c'est dans les dialogues ou dans les discours sur deux sciences nouvelles, mais il y a un passage absolument formidable où il explique ce que c'est que l'invariance que nous appellerons plus tard, l'invariance de Galilée, et c'est très joli, il dit « Enfermez-vous avec un ami dans la cale d'un navire qui est au repos dans le port, et puis faites plusieurs expériences. Lui, il est à la proue, vous à la poupe, vous lui lancez une balle, le navire est immobile, évidemment, c'est aussi facile de lancer la balle dans les deux sens. Et puis, vous avez un aquarium, avec des petits poissons, évidemment, ils nagent de la même façon dans les deux directions. Vous avez une petite fiole qui lâche des gouttes une à une dans un petit vase à col étroit où elle tombe verticalement. Pas de problème. Maintenant, dit-il, mettez le navire en mouvement, pourvu qu'il n'y ait pas de roulis, pas de tangage, autrement dit que le mouvement soit uniforme, vous ne verrez aucune différence dans ce qui se passe. Le mouvement... suivant la phrase qu'on lui attribue, qui n'a jamais été écrite telle qu'elle, mais ce n'est pas grave, le mouvement, sous-entendu uniforme, le mouvement est comme rien. Vous ne pouvez pas distinguer un bateau en mouvement uniforme de ce qui se passe quand le bateau est immobile par rapport à un certain référentiel. Donc c'est parfaitement explicite de ce point de vue-là chez Galilée, mais évidemment, cette constatation ne donnera pas lieu, et de longtemps, à un développement et une mise en œuvre, parce que la notion d'invariance, de groupe de symétrie, va attendre quasiment trois siècles avant d'émerger. Et donc l'invariance que nous allons appeler invariance de Galilée, elle est là, dans la mécanique classique, chez Galilée, chez Descartes, chez Lagrange, chez Laplace, etc. Mais elle n'est jamais explicitée. Et les formules de transformation, x' égale x moins vt, t' égale t, n'ont jamais été écrites avant qu'on s'aperçoive qu'elles étaient fausses. Elles ne seront écrites qu'après que soient écrites les transformations de Lorentz, et on dira « Ah, mais oui, mais à basse vitesse, il y a une approximation qui est celle-là. » Alors c'est intéressant quand même de voir qu'on comprend quelque chose qui est là, mais qui reste implicite que, assez tardivement. Alors, par conséquent, ça veut dire que le principe de relativité, autrement dit, invariance par rapport à des changements de référentiel en mouvement uniforme ne préjuge pas de la forme précise que va prendre la théorie. La théorie la plus générale, c'est la théorie Lorentz-Einstein, mais avec un paramètre petit c qui est inconnu, qui pourrait, après tout, être infini, à ce moment-là, on serait dans un monde galiléen. Ou qui pourrait être nul, on serait dans un monde carolien. Donc, il me paraît que il ne faut pas utiliser le mot non-relativiste, parce que la physique classique, galiléo-newtonienne, est parfaitement relativiste, elle obéit au principe de relativité, même si la théorie concrète qui en rend compte n'est pas exactement la même. Et d'ailleurs, Sommerfeld, pas n'importe qui quand même, Sommerfeld, en 1948, dans une lettre à Einstein, écrit « La théorie de l'espace-temps, c'est une théorie des invariants du groupe de Lorentz. Le nom « théorie de la relativité » est un choix malheureux. La relativité de l'espace et du temps n'est pas la chose essentielle. La chose essentielle, c'est l'indépendance des lois de la nature par rapport au point de vue de l'observateur. Et effectivement, dans l'utilisation concrète que les physiciens théoriciens font aujourd'hui de la théorie dite de la relativité, on s'efforce au maximum d'utiliser des invariants, des choses qui ne dépendent pas du référentiel. E2 moins P2, égal M2, etc., etc. Et les transformations de Lorentz n'ont pas plus du tout le rôle qu'elles ont pu avoir au début, dans les années 1910-1920, où on est très féru des dilatations de temps, contractions de longueur, etc., etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce qui est au premier plan. Et par conséquent, cette indépendance, invariance, elle caractérise la structure de l'espace-temps. Et si on avait la possibilité de revenir en arrière et de faire des choix terminologiques un peu plus adaptés, moi je pense qu'il faudrait appeler ça une chronogéométrie, parce que la théorie de l'invariance dans l'espace de Minkowski, de Groob, etc., est à l'espace-temps exactement ce qu'est la géométrie euclidienne par rapport à l'espace. Elle définit, et ça nous le savons depuis Minkowski, 1908, elle définit la structure spatio-temporelle. Il me semble que si on avait fait ce choix-là, on aurait évité beaucoup de malentendus, de faux sciences, d'extrapolations abusives, sans aller jusqu'à l'extrême, tout est relatif, comme l'a dit Einstein, mais l'accent mis sur ce qui change d'un référentiel à l'autre, en fait, obscurcit ce qui est important, qui est ce qui est intrinsèque, ce qui ne change pas, ce qui est structurel. Et donc, sans trop y croire, moi je proposerais volontiers qu'on remplace relativité par chronogéométrie. Et non relativiste, ben, par galiléenne. Vous allez dire relativiste einsteinien ou relativiste galiléen. Ou tout simplement einsteinien ou galiléen. Ou carolien. Un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, sur le plan terminologique, c'est l'idée de vitesse de la lumière. Bon, petit c, tout le monde dit, c'est la vitesse de la lumière. Pas si simple. Pas si simple, pourquoi? Alors, effectivement, historiquement, c'est tout à fait vrai que quand Einstein reconstruit les transformations de Lorentz, dans son article de 1905, il le fait à partir de ce qu'on a appelé ensuite le second postulat, qui est l'hypothèse que la vitesse de la lumière est invariante. Elle est la même dans tous les référentiels. Elle n'est pas sujette à modification en fonction de la vitesse relative des référentiels. Bon, d'accord, ça marche, la construction einsteinienne marche, mais elle présente quand même un problème. C'est que vous vous souvenez que dans cet article de 1905, comment fait Einstein pour construire les transformations de Lorentz, ben, il compare des mesures d'espace et de temps faites à l'aide d'échanges de signaux lumineux pour lesquels il impose la variance de la vitesse de propagation. Et il s'aperçoit à ce moment-là que s'il veut comparer des mesures d'espace et des mesures de temps avec une procédure empirique de mesure, eh bien, il faut relier les intervalles d'espace et de temps mesurés dans l'un et l'autre par les fameuses transformations de Lorentz. Très bien, parfait, mais plusieurs problèmes. Vous utilisez la lumière. Bon, vous avez le droit. N'empêche que vous apprenez par la suite, quelques années après, que l'espace de Minkowski et sa structure invariante, sa structure de groupe, régit des phénomènes qui n'ont strictement rien à voir avec la lumière ou l'électromagnétisme en général. Vous les appliquez aux interactions nucléaires. E égale mc2, vous l'appliquez aux interactions nucléaires. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques dans un phénomène de radioactivité alpha ou de désintégration de bêta. Qu'est-ce que la vitesse de la lumière, si c'est vraiment vitesse de la lumière, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Dans des phénomènes physiques où elle n'a rien à faire. Deuxième point, on peut, et c'est connu depuis très longtemps, plus d'un siècle maintenant, on peut construire le groupe de Lorentz, donc les fameuses transformations, sans recours au second postulat, en exploitant pleinement les axiomes de la structure de groupe. Et ça, ça a été montré très tôt. Ignatovski 1911, Frank Herold 1911 aussi, et puis redécouvert tous les 10 ans. Je pourrais vous donner une liste de références. Dans les années, fin des années 1920, il y a des Anglais, fin des années 1930, comment il s'appelle un Français dont le nom m'échappe à l'instant, mais ça va revenir, c'est pas très grave, puis plus tard, etc., etc. Dans les années 1960 et quelques, deux ou trois papiers, dont un de votre serviteur, ne sachant rien de ce qui avait été fait au préalable, apparaissent en disant la même chose, on n'a pas besoin de l'invariance de la vitesse de la lumière si l'on utilise pleinement la notion de structure de groupe. Vous utilisez la notion de structure de groupe dans l'espace-temps, plus une ou deux hypothèses très générales comme l'uniformité de l'espace-temps, c'est-à-dire qui va entraîner la linéarité des transformations. Vous allez devoir rajouter une hypothèse de causalité et vous obtiendrez les formules de transformation de Lorentz avec un paramètre inconnu. Et ce paramètre inconnu, vous allez évidemment à ce moment-là essayer de savoir ce que la nature vous dit de sa valeur. Elle ne vous dit pas qu'il est infini, donc vous n'êtes pas galiléen, elle vous dit qu'il vaut 300 000 km par seconde. Mais ce paramètre, à cet étage-là, ce soubassement-là de la théorie, n'est strictement pas lié à la question de la lumière. Mais il y a pire encore. Supposez que le photon est une masse non nulle. Qu'est-ce que vous en savez? Rien. Et vous n'en saurez jamais rien. Nous sommes physiciens, nous sommes incapables d'affirmer que quelque chose est identiquement nul, pour juste dire c'est plus petit que. Il se trouve effectivement que les limites aujourd'hui observationnelles sur la masse du photon sont infimes. C'est, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est quelque chose comme 10⁻⁰, sinon même 10⁻⁰ fois la masse de l'électron. Donc, à toutes fins utiles, pour l'instant, faisons comme si c'était nul. Je vous rappelle cependant que pendant longtemps, on a cru que la masse du neutrino était nulle, avant de s'apercevoir qu'elle ne l'était pas et qu'elle est même mesurable. Rien ne nous garantit que demain, après-demain, dans un siècle, on ne va pas s'apercevoir que le photon lui-même a une masse absolument minuscule, mais non nulle. S'il a une masse non nulle, il ne va pas à la vitesse limite. Quoi, la lumière n'irait plus à la vitesse de la lumière. Aucun problème. Si l'on établit les transformations de Lorentz sans aucune hypothèse sur la signification physique de la fameuse constante, la dite constante n'apparaît que comme une constante structurelle de l'espace-temps qui est peut-être la vitesse effective de certains objets s'il existe des objets de masse rigoureusement nulle. Donc ça ne change strictement rien pour nous, ni sur le plan théorique, ni sur le point de vue observationnel, mais ça veut dire que c'est minimiser l'importance conceptuelle de la dite constante que de la pointer comme étant la vitesse de lumière. C'est beaucoup plus et beaucoup plus important que ça. C'est une constante structurelle. Alors on peut l'appeler vitesse limite, ou mieux, moi je serais assez pour qu'on l'appelle constante d'Einstein, tout simplement. Il y a une constante de Planck, pourquoi il n'y aurait pas une constante d'Einstein ? Voilà, donc ça c'est pour vous dire à quel point un travail comme le petit travail là, que j'ai fait sur le groupe de Carole débouche aussi sur des questionnements qui vont au-delà de son pur, de son contenu étroit. Alors là je vais passer parce que je ne voudrais pas parler de contraction de groupe. Ici, ça serait trop long. C'est aussi un nom. Voilà. Alors, mais pourquoi j'insiste là-dessus ? Pourquoi, après tout, puisque quand on dit vitesse de lumière, on sait ce dont on parle, on sera tous d'accord sur les équations, on ne se chipotera pas, oui, E égale MC2, gamma égale 1 sur racine de MC2, il n'y a aucun problème. Quelle importance cela a-t-il de travailler sur les mots alors que nous sommes d'accord sur les formules. Vous savez d'ailleurs, de ce point de vue-là, sur la question du formalisme, vous connaissez la fameuse citation de Hilbert qui se faisait l'avocat d'une axiomatisation absolue des mathématiques au détriment du langage et qui disait après tout, on pourrait très bien faire de la géométrie plane, la géométrie euclidienne, en utilisant des mots comme tabouret au lieu de plan, panne de bière au lieu de point, et je ne sais plus quoi, au lieu de ligne, pourvu que les axiomes qui relient ces notions soient les bons. Je ne suis pas sûr qu'il prenait lui-même très au sérieux cette affirmation, en tout cas, je pense qu'elle est très dangereuse parce qu'elle équivaudrait à faire comme si il était possible d'instaurer une sorte de césure entre le formalisme, les équations, les symboles, etc., qui contiendrait l'ensemble de la signification de nos théories, d'un côté, et puis le langage ordinaire avec lequel, plus ou moins bien, on le transcrit. Or, ceci n'est pas vrai. C'est évidemment pas vrai. Nous parlons tous la même langue. Il n'y a pas de langage scientifique. Il n'y a pas de langage scientifique. Il y a une terminologie, bien sûr. Mais comme dans tout métier spécialisé, il y a un jargon, il y a des mots spécialisés. Mais la langue que nous pratiquons, il suffit de lire les articles de physique, qui sont en anglais ou en français, qui sont écrits dans la langue vernaculaire. Il y a une scène tout à fait intéressante à cet égard, dans un film de Hitchcock, qui n'est pas un de ses meilleurs de loin, qui s'appelle Le Rideau déchiré. Quelqu'un a vu The Torn Curtain ? C'est un film de guerre froide et d'espionnage. Et bon, c'est pas absolument génial. Et c'est un film dans lequel un savant américain est embauché par la CIA pour aller au-delà du rideau de fer, essayer d'extraire un savant est-allemand qui aurait fait des avancées notables en matière, vous l'imaginez, de physique nucléaire et d'armement. Et il y a une scène tout à fait étonnante où les deux savants se rencontrent, en Allemagne de l'Est donc, et où le savant américain qui est joué par... comment il s'appelle, un des grands acteurs... par Paul Newman, merci. Où le beau Paul Newman, avec ses magnifiques yeux bleus, essaye d'extraire des informations de son collègue allemand. Et la scène est tout à fait étonnante parce qu'ils sont tous les deux devant le tableau noir. Il y en a un qui écrit une équation, l'autre la regarde d'un air bizarre, il prend le chiffon, il efface trois ou quatre symboles, il réécrit quelque chose à la place, l'autre fait de même, etc. Et donc il y a une scène quasiment muette, où aucun mot ne se dit et où tout se passe au tableau. Chacun sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez dans n'importe quel bureau ici et tout le monde cause et cause énormément, bien ou mal. Ça, c'est un autre problème. Mais la science n'est pas plus que l'armée, n'est pas une grande muette. Et donc, à partir du moment où vous reconnaissez que nous sommes, y compris nous, scientifiques, physiciens, des êtres parlants, je crois qu'il est important de respecter la langue et de la prendre au sérieux. Et ça, quelqu'un l'a très bien dit il y a déjà un bon moment. Les mots ne véhiculent pas la simple idée de l'objet concerné, mais transportent aussi un nombre plus ou moins important de significations et d'images. C'est le grand poète italien Leopardi qui a écrit ça en 1820 et qui, à très juste titre, nous montre qu'il n'y a pas, si j'ose dire, il n'y a pas de terme innocent. Tout mot, ben, je ne sais pas, la vitesse de la lumière ou relativité, transporte avec lui toute une série de références implicites qui vont bien au-delà de ce que nous considérons comme étant son contenu proprement scientifique et qui modulent, bien ou mal, la compréhension que nous en avons. Et donc il me semble que l'attention aux mots est importante du point de vue de la recherche parce qu'elle nous incite à aller au-delà du seul formalisme, à nous demander de quoi nous parlons. Elle est importante dans l'enseignement, évidemment, parce qu'au-delà des technicalités de l'enseignement, des équations, il est tout à fait important de savoir de quoi on parle. Moi, je me souviens d'expériences pédagogiques en tant qu'étudiant extrêmement malheureuses. Je vais vous en donner une. Je n'ai jamais compris, et j'avais raison de ne pas comprendre, pourquoi dans les équations de Maxwell, il y a un terme qu'on appelle le courant de déplacement. Le terme en dE sur dT, pourquoi il s'appelle courant de déplacement? Ça m'a perturbé pendant extrêmement longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une terminologie qui avait été empruntée à Maxwell, que chez Maxwell, qui avait une image très mécanique de sa théorie, vous savez, ça se passe dans l'éther, et dans l'éther, il y a des petits tourbillons, il y a des polarisations, des charges, etc., etc. Et le terme en dE sur dT, dans le modèle mécanique de Maxwell, est effectivement un courant. Bon, pour Maxwell, c'est de la courante de Maxwell. Mais du point de vue moderne, quand on a en tête l'idée d'une théorie des champs, plus d'éther, il n'y a plus de petits engrenages, il n'y a plus de tourbillons, etc. Il y a du champ, mais le terme en dE sur dT, c'est un terme de champ, comme le terme en dB sur dT, et pas un courant de déplacement. Alors, peut-être que c'était une idiosyncrasie de ma part, mais je sais que ça m'a vraiment, vraiment perturbé. Et je pense que des phénomènes de ce genre-là seront beaucoup plus nombreux qu'on le croit, et que nos étudiants, très souvent, peuvent être, à tort ou parfois à raison, perturbés par l'utilisation d'un certain vocable, mais ne vont pas oser le remettre en cause, me dire « Mais monsieur, pourquoi ça s'appelle comme ça ?» etc. Et si j'avais osé à l'époque, d'abord je ne suis pas sûr que mes enseignants auraient su me répondre sur pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que la connaissance des œuvres de Maxwell en tant que telle est quand même assez relativement limitée. Donc c'est important pour la recherche, c'est important pour l'enseignement, et c'est évidemment important pour le partage du savoir, pour la popularisation, pour aller au-delà des mots-clés. Alors là, je ne vais pas vous développer parce que ce n'est pas du tout mon sujet, mais vous savez mieux que moi à quel point des mots comme trou noir, théorie des cordes, Big Bang, etc. sont porteurs de confusion considérable. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, alors maintenant, j'en viens à ce qui s'est passé après cet épisode, cette naissance de 1900, double naissance au Japon, chez Sengupta, en France, en 1965. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pendant longtemps, il ne se passe rien. Vous voyez que jusqu'en 2005, c'est-à-dire pendant quasiment 40 ans, mon article, 1925, est cité une, au mieux, deux fois par an. Donc on peut dire qu'il est vraiment quasiment ignoré. Et puis, voilà ce qui se passe après 2005, vous avez une espèce d'explosion qui commence et vous voyez que aujourd'hui il y a plus de 400, alors évidemment c'est pas, c'est une petite industrie, mais c'est une petite industrie aujourd'hui, il y a quand même des dizaines et des dizaines de chercheurs qui travaillent sur la physique carolienne et dont malheureusement, il n'y en a que 25%, moi je souhaiterais qu'il y en ait 100% qui mentionnent aussi l'article de Sengupta. Et vous voyez que la courbe est vraiment exponentielle. Là, en 2023, elle a largement dépassé les limites de l'épure, et en 2024, elle est encore plus grosse. Alors ça, vous comprenez que pour moi, ça a été une surprise absolument incroyable de voir 40 ans après, un papier dont je n'étais pas mécontent, un petit papier comme ça, ça, acquérir tout d'un coup une notoriété absolument inattendue. Donc de 65 à 2000, une à deux citations par an, dans une vingtaine de journaux, qui sont des journaux en général plutôt de physique mathématique abstraite, qui concerne, oui, la théorie des groupes, la relativité, l'électromagnétisme, des sujets très généraux, très globaux. Et puis 2000, après, avec une accélération après 2010, eh bien, on retrouve des citations, cette fois-ci, dans, par exemple, le journal de physique des hautes énergies, Classical and Quantum Gravity, Journal of Cosmology and Astroparticles, etc., etc. Et cette fois-ci, il est question de choses beaucoup plus concrètes, mais enfin, puisque vous avez eu des séminaires là-dessus, vous le savez, question de relativité générale, de théorie des champs, de gravitation, de cosmologie, avec des mots-clés comme structure conforme, espace-temps simple éclectique, géométrie de clair-temps, symétrie d'anticitaire, etc., etc. Un exemple tout récent, en 2024, là, c'est un preprint, où les auteurs, dès le début, explicitent le fait que les symétries caroliennes, alors ils donnent la référence à nos deux papiers, Sengupta et moi-même, ont été pendant longtemps ignorées, jusqu'à ce que leur omniprésence soit reconnue. Ils donnent une série de références en relativité générale, etc., etc. Et évidemment, tout ceci s'accompagne d'une activité collective non négligeable, un atelier à Vienne en 2022, un deuxième atelier toujours en 2022 à l'Université de Mons, un troisième à Thessalonique en 2023 et un autre en 2024. Donc c'est, comme je le disais, une petite, hein, mais c'est devenu une petite industrie. Alors, pourquoi ? Bah, quand on regarde ces papiers-là, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, parce que comme je l'ai dit, je n'y comprends pas grand-chose dans la plupart des cas, mais parce que si on y réfléchit bien, après tout, bah, quand vous vous intéressez à la limite galiléenne de l'invariance einsteinienne, c'est que, comme j'ai déjà dit au début, vous vous intéressez à des intervalles qui sont grands de genre temps. Puis vous pourriez dire, oui, mais les intervalles de grands de genre espace, ils n'ont pas de contenu causal, donc ils ne sont pas intéressants. Ben, c'est pas vrai, ça. Intervalles grands de genre espace, oui, d'accord, ils relient des points de l'espace-temps qui ne sont pas causalement reliés, mais qui existent, ils sont là. Et donc, si vous voulez explorer l'espace-temps en général, toute la partie extérieure au cône de lumière, vous ne pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. Et donc, de même que l'approximation galiléenne vous permet de regarder de très près ce qui se passe à une bonne approximation proche de l'axe des temps, eh bien, l'approximation carolienne vous permet de regarder ce qui se passe très loin dans l'espace-temps, et elle a donc une grande importance asymptotique. Par exemple, le groupe Bondy-Metzner-Sachs, qui explore les propriétés asymptotiques des variétés de genre espace, et qui a été mis au point d'ailleurs avant le groupe de Carol, retrouve des propriétés importantes à cet égard. Donc finalement, ce n'est pas si surprenant ni si étrange que le groupe de Carol, et grâce probablement entre autres à ma petite astuce de communication, ait trouvé un certain intérêt. Alors, le propos de deux mots, de, un peu de généralisation, deux, trois années après, avec Henri Bacri, j'ai fait un papier dans Journal of Mathematical Physics, qui s'appelait Possible Kinematics, et qui tentait de répondre à la question suivante. Bon, alors on a le groupe de Lorentz dans l'espace de Minkowski, c'est très bien. Ah, il a une approximation cohérente et intéressante, qui est le groupe de Galilée. Ah oui, mais il en a une autre qui est intéressante aussi, qui est le groupe de Carol. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Des groupes d'espace-temps cohérents permettant de décrire des espace-temps non minkowskiens, mais qui auraient une structure raisonnable, etc. Et donc, on s'est attaqué à ce problème-là avec Bacri, avec des outils relativement élémentaires de théorie des groupes, plus précisément d'ailleurs d'algèbre de Lie. Et nous avons abouti à ce tout à fait joli diagramme suivant, dans lequel nous avons montré qu'en fait, avec des hypothèses extrêmement générales du genre uniformité de l'espace-temps, c'est-à-dire structure linéaire, plus invariance par renversement, invariance par parité, invariance par renversement du temps, eh bien, on avait une restriction discrète, très forte des structures possibles, avec des relations liées à la fameuse contraction des groupes dont je n'ai pas parlé, avec un groupe qui est le groupe le plus général, qui est le groupe de Sitter dans l'espace-temps, et puis qui a des approximations, en particulier le groupe de Poincaré, lequel a des approximations qui sont le groupe de Carol, le groupe de Galilée. Je ne commente pas les autres, mais vous voyez qu'on a une structure qui est très simple, très satisfaisante, et qui évite de se dire « Ah, mais il y a peut-être des choses beaucoup plus compliquées que le groupe de Lorentz, et si jamais on trouvait que la relativité einsteinienne a des limites, est-ce qu'il ne faudrait pas recourir à des structures de groupe beaucoup plus complexes ?» La réponse, c'est c'est pas dans cette direction-là qu'il faudrait chercher. Et on avait été très heureux, quelques années après, de voir que ce papier avait été repéré par Freeman Dyson, rien moins, grand honneur d'être cité par Dyson, dans un papier que je vous recommande très vivement, qui dépasse très largement le cadre dans lequel je suis en train de parler, qui s'appelle « Missed Opportunities », paru dans American Mathematical Society en 1972, et c'est les lectures Gibbs, et dans lequel, en 8 paragraphes, Dyson montre combien, met en évidence des occasions manquées dans l'histoire de la physique théorique. Il dit il y a eu des moments où on était tout près de trouver quelque chose d'intéressant, et puis ça ne s'est pas fait à ce moment-là, il a fallu attendre très longtemps avant qu'on le retrouve et qu'on s'aperçoive que c'est intéressant. Et parmi les différents exemples qu'il prend, il y a celui de nos groupes cinématiques, dans lequel il écrit les 8 groupes, ce que vous avez vu dans le cube que je vous ai dessiné, sont les sommets d'un cube, P c'est le groupe de Poincaré, G c'est Galilée, sont les seuls groupes cinématiques qui correspondent à des univers physiques orthodoxes, mais les autres 5 sont aussi bons mathématiquement parlant. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il dit les autres 5 alors qu'il y en a 6, puisqu'il y en a 8 en tout. Les plus intéressants sont les groupes hétérodoxes N et C, N, un univers newtonien avec un espace-temps courbé, mais newtonien. C, c'est le groupe de Carroll, qui a un temps absolu. Le groupe C, etc. Dans l'univers de Carroll, tous les objets ont une vitesse nulle, bien qu'ils puissent avoir une quantité de mouvement non nulle. Et il justifie le nom en disant, en citant la reine dans Alice au Pays des Merveilles, qui dit « Nous habitons un drôle de pays ». Il faut courir très très vite pour rester au même endroit. Et cet article, donc Possible Kinematics, a connu une fortune semblable à celle du papier sur le groupe de Carroll. Un peu mieux, il était honnêtement cité dans les années qui suivaient, mais lui aussi, il est en voie d'expansion. Bien au-delà des limites de cette épure-là. Alors, quelques conclusions, parce que tout ceci n'est pas fait, vous vous en doutez, bien que ça soit très gratifiant, n'est pas fait pour que je tire la couverture à moi. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que ça a une portée qui dépasse très largement ce cas particulier. Et donc, quelques conclusions. La première étant la suivante, le rythme de la science moderne n'est pas toujours fast and furious. Il est vrai que si vous prenez les articles, la grande majorité des articles publiés aujourd'hui dans la littérature primaire, vous vous apercevez que la bibliographie est concentrée sur les 3, 4, 5 dernières années en règle générale, et qu'il est très rare que l'on cite des articles plus anciens. Alors évidemment, il y a des articles beaucoup plus anciens qui sont devenus tellement classiques, qui font partie du bagage. Personne ne va s'amuser à citer l'article d'Einstein de 1905 parce qu'il fait partie de la connaissance courante. Mais pour des articles qui n'ont pas atteint, parce qu'ils ne sont pas suffisamment importants, ce niveau de notoriété, eh bien il est très rare que l'on cite des articles ayant plus d'une dizaine d'années. Et là, vous avez un exemple intéressant où un article peut être cité 50 ans après, parce qu'il n'a pas été connu suffisamment à l'époque. Et ça, c'est juste par une autre citation italienne de Giuseppe Verdi, grand musicien, qui en 1871 écrivait « Torniamo all'antica sarà un progresso ». Retournons à l'antique, ce sera un progrès. Et je trouve que cette idée du progrès que peut matérialiser un retour vers le passé, c'est un peu, vous savez, comme dans les bus quand il y a beaucoup de monde, où le conducteur dit « avancez vers l'arrière, s'il vous plaît ». Je trouvais cette formule formidable, « avancez vers l'arrière ». Donc, il y a des oldies qui sont aussi des goodies. Deuxième conclusion, qui m'est chère, partager le savoir peut contribuer à le développer. Comme je vous l'ai dit, le groupe de Carole, il est né d'un problème que j'ai rencontré en enseignant. Je suis tombé sur un problème, je me suis rendu compte que mon explication n'était pas suffisante, n'allait pas être suffisamment convaincante pour les étudiants, et qu'il fallait réexaminer à nouveau frais une question en principe bien connue. Et ça, citation pour citation, encore une italienne, c'est Casanova qui a écrit un très beau livre de science-fiction que je vous recommande, qui s'appelle « L'Icosaméron », qui est un livre formidable parce que c'est un livre où il décrit, alors c'est un livre, c'est un conte philosophique, comme beaucoup à l'époque, où il décrit une civilisation totalement étrangère, non pas extraterrestre, comme par exemple Voltaire dans Micromégas, quand il convoque des extraterrestres, etc. Non, Casanova fait mieux que ça, il convoque des intraterrestres. C'est-à-dire qu'il a une théorie qui est un vieux mythe d'ailleurs, hein, le vieux mythe de la Terre creuse, etc. Et donc il invente une civilisation intraterrestre qui va lui servir comme contrepoint à la description et la dénonciation de la société de son temps. Mais là-dedans, il écrit « L'homme ne peut jouir de son savoir qu'autant qu'il peut le communiquer à quelqu'un ». Et ça, j'aime beaucoup cette citation, à laquelle j'ai simplement envie de rajouter qu'il ne peut jouir de son savoir et l'enrichir qu'autant qu'il peut le communiquer à quelqu'un. Alors, ce n'est pas vrai de tout le monde. Il y a des gens, des grands savants, qui probablement restent enfermés dans leur propre. Et d'ailleurs, il y a une idée de Paul Valéry qui m'a toujours beaucoup troublé. Valéry réfléchit sur ce que c'est que le génie. C'est un truc impossible à définir de façon un tant soit peu raisonnable. Mais il émet l'idée suivante. Il dit, oui, il y a les grands génies de l'humanité, dans tous les domaines, de Homère à Einstein, en passant par Newton, Bach, etc., etc. Et dit-il, peut-être qu'il y a des super génies de l'humanité que personne ne connaît parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de diffuser leurs découvertes. Ils se suffisent à eux-mêmes, ils sont très contents, ils ont trouvé des trucs, une espèce de génie auto-centré, autiste, on pourrait dire, d'une certaine façon. Cette idée m'a toujours beaucoup troublé, savoir si il n'y a pas comme ça, dans l'humanité, des gens bien plus géniaux encore que Mozart ou Einstein, mais qui n'ont pas trouvé utile, nécessaire ou intéressant de... Je n'y crois pas trop, la société étant ce qu'elle est, mais ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Troisième conclusion que j'ai déjà évoquée, il me semble que le langage doit être pris au sérieux, comme, et Lewis Carroll, encore une fois, le dit, « Quand j'utilise un veau, dit humpty-lumpty, un ton méprisant, il signifie juste ce que je veux qu'il signifie, ni plus ni moins. » Mais, dit Alice, la question c'est, est-ce que vous pouvez faire en sorte que les mots puissent signifier tant de choses différentes? Et la question, répond un petit, est, qui en est le maître? Qui est le maître des mots? Et il me semble que c'est une très bonne question et que nous devons effectivement faire un effort pour garder la maîtrise des mots. Mais garder la maîtrise des mots, contrairement à ce que Humpty Dumpty dit au début, ce n'est pas faire en sorte qu'il signifie n'importe quoi, ce que je veux dire, c'est faire en sorte, au minimum, qu'il puisse garder une pluralité de sens. La polysémie du langage me semble absolument nécessaire. Alors, évidemment, en termes scientifiques proprement dit, à l'intérieur du formalisme, un mot signifie une chose et une seule. Quand vous dites un groupe de transformation, ça répond à certains axiomes bien définis. Il n'empêche que ce mot va appartenir à un discours beaucoup plus large, beaucoup plus général, et dans ce discours plus large et plus général, vous allez avoir des mots de la langue courante qui auront ou pas des associations sémantiques qui pourront être soit négatives, j'ai dit le mal que je pensais par exemple de relativité ou de vitesse la lumière, soit au contraire des termes positifs. Et alors si j'avais le temps ou une autre fois, je pourrais développer ce point de vue à partir en particulier de la terminologie de la théorie quantique qui est, me semble-t-il, totalement envahie de termes impropres qui nous ont longtemps et encore aujourd'hui empêché de comprendre ce dont il est question, non seulement pour les profanes, mais même pour nous-mêmes. Je pourrais commenter par exemple les relations dites d'incertitude de Heisenberg à cet égard. Voilà, et quatrièmement, c'est ce que nous dit Dyson, c'est la question des opportunités, et Dyson dit « Il existe sûrement beaucoup d'autres opportunités manquées qui permettraient de créer de nouvelles branches de mathématiques pures à partir de vieux problèmes de la science appliquée. » Alors lui, c'est ça qui l'intéresse, mais je crois que c'est beaucoup plus général qu'on peut trouver beaucoup d'occasions manquées de résoudre de nouveaux problèmes de la science à partir de ces anciens acquis. Et là, il y a à la fois un paradoxe et peut-être en même temps une opportunité, justement, qui est que nous avons maintenant, depuis quelques années, un accès potentiel à, je ne dirais pas tout, mais une énorme partie du patrimoine intellectuel, culturel et scientifique accumulé. Trouver des articles de revues scientifiques et du milieu du XIXe siècle, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans la bibliothèque de l'Institut des sciences, des trucs comme ça. Vous pouvez y avoir. Alors, tout n'est pas en ligne, certes, mais il y a, j'en suis persuadé, des mines qui ne demandent qu'à être exploitées. Et encore faut-il avoir l'intérêt ou la chance, tout simplement, de tomber dessus. Voilà, merci pour votre attention. Et encore Lewis Carroll qui disait « C'est une pauvre mémoire que celle qui ne travaille qu'à l'envers ». Évidemment, on aimerait mieux avoir une mémoire qui travaille vers le futur. Je vous remercie.
Des questions? Parce qu'on peut-être d'abord passer dans la salle.
Peut-être qu'il y a des questions à lui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Eh bien, sinon, on continue. Il y a une question de Thibaut Damour. Et une de Jordan.
Oui, merci Jean-Marc pour ce très bel exposé. Une petite remarque d'abord. Einstein, dans son article fondateur de 1905, dit tout de même explicitement que il compose les transformations et qu'elles forment un groupe et qu'elles devaient, il fallait qu'elles forment un groupe. Juste, la notion de groupe était déjà dans...
Bien sûr, mais ça Poincaré l'avait déjà dit.
Oui, mais c'est indépendant, non? Je veux dire, il n'y a pas de preuve du tout qu'Einstein ait lu Poincaré, oui. Et je veux dire, bon, En tout cas, c'est d'accord. Mais ma question principale, c'est, tu ne t'es pas posé la question de savoir qui avait relancé, pourquoi aujourd'hui il y a tant de conférences caroliennes, qu'est-ce qui a lancé ça? J'ai l'impression, la référence la plus récente que je connais là-dessus, c'est un travail de Marc Hainaut de 1979, qui est lié à la gravité et qui est lié aussi à BKL, à Bélinski-Ralatnikov-Lifshitz, c'est-à-dire, c'est une situation physique au voisinage d'une singularité, de Big Bang, de Big Crunch, où effectivement, il n'y a pas d'interaction qui se propage dans l'espace, mais le cône de lumière se réduit à une ligne. Et je crois, je ne sais pas si c'est ça, mais ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a lancé la mode de la physique carolienne.
Moi, je pense que tu as raison. Je ne sais pas si Hainaut est Hainaut et ses collaborateurs, d'ailleurs.
Le seul et Teitelbaum pour, mais il y a un article d'Hainaut de 79 seul. Oui, oui.
Mais absolument, il a joué un rôle non négligeable dans cette affaire-là, mais son papier est resté relativement singulier pendant très longtemps, avant le début des années 2000, où tout ça est reparti. Absolument.
Ouais. Une brève remarque sur le fait que dans cette limite, c'est envers zéro, avec le cône de lumière entièrement resserré. Le problème, c'est que ça n'a plus de sens de parler de changement de référentiel non plus, parce qu'en fait, il n'y a plus de vitesse possible, puisque évidemment, tout est figé. Donc, parler d'invariance par changement de référentiel, quand on vient de tuer la notion de référentiel, puisque V est plus petit que C, qui est zéro, donc il n'y a pas de vitesse. C'est pour ça que, en fait, les choses sont figées. On ne peut influencer que là où on est, évidemment, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Rien ne peut aller ailleurs. Il n'y a pas de signal qui se propage. Et donc, il n'y a pas de référentiel non plus, en fait. La notion est morte. Donc, parler d'invariance par référentiel,
Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle n'est pas morte. La preuve, c'est que le temps change. T' égale T moins V.
Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle référentiel?
Qu'est-ce qu'on appelle vitesse? Non, mais je suis d'accord. Mais tu as formellement un changement de coordonnées. Hein. Alors, une remarque cependant, c'est envers zéro, mais V sur C reste fini. Alors lui, si c'est envers zéro, V est envers zéro. Mais le rapport V sur C reste fini.
Oui, mais le point, c'est que rien ne peut passer d'un point à un autre.
Non, on est bien d'accord.
Donc effectivement, c'est une limite, mais en fait, disons de le relier à la notion d'invariance par changement de référentiel me pose un peu problème.
Moi aussi. Hein. ça nous pose problème parce que l'idée que nous avons de changement de référentiel est associée à ce que nous savons des changements de référentiel dans l'espace-temps, qu'il soit Einsteinien ou Galiléen, je suis bien d'accord. Mais je ne serais pas contre, si vraiment c'était nécessaire, le fait de changer de terminologie, si tu veux. Mais formellement, tu as des équations de transformation avec un changement de coordonnées.
Mais alors justement, ce groupe carolien là, il s'écrit, enfin si on change x en t, c'est le groupe de Galilée en fait, dans les deux équations que tu as montrées au début. Delta t et prime égale delta t, ben, ça devient delta x prime égale delta x. Si on change t, enfin c'est juste une écriture. Donc finalement, en quoi il est différent? Il n'est différent que dans la mesure où on donne au préalable un sens particulier à la notion de temps. Parce que sinon c'est juste une façon de noter.
Mais évidemment, non, mais on est d'accord. Mathématiquement, il est isomorphe.
Oui, mais c'est le même à un changement de lettre près, en fait.
On est d'accord. À ceci près que nous savons, quand nous partons en particulier des transformations de Lorentz, nous savons que le temps a une signification physique qui n'est pas la même que celle de l'espace. Et là où tu le vois encore plus clairement, et où la question du coup ne se pose pas vraiment, Là, j'ai fait comme si l'espace n'avait qu'une dimension. Mais si tu passes à trois dimensions, tu vois bien que c'est pas pareil. Tu n'as toujours qu'une dimension temporelle et trois dimensions d'espace. Et là, les deux groupes ne sont plus isomorphes. Le groupe de Carole et le groupe de Galilée.
Tout à fait. C'est vrai.
Il y a une dernière question.
Moi, je voulais... Oh, excuse-moi, Luc.
Non, je t'en prie.
Oh, c'est un petit peu pour rigoler, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié ton... quand tu as dit que les termes qu'on employait étaient mal choisis et pouvaient nous mettre dedans. Donc, le plan de déplacement, ça t'a perturbé. Et j'avais envie de faire un petit sondage ici parmi vous. Qui, dans ces études, s'est trouvé comme ça embarrassé parce que, tout simplement, les termes n'étaient pas les bons, étaient de travers. Moi, je peux vous dire que le terme de fonction d'onde, alors,
certes,
je trouve que c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est d'accord. Mais ce serait marrant qu'il y ait des gens qui donnent d'autres exemples. Le terme le plus nocif dans la littérature, c'est quelqu'un veut dire quelque chose.
Quasiment tout ce qui se dit en physique quantique. À commencer par, effectivement, principe de certitude, mais principe de cette superposition, c'est encore pire, à mon sens.
Pardon ?
Principe de superposition, c'est encore pire.
Non, je ne crois pas, parce que principe de superposition, c'est une terminologie formelle, elle ne convoque pas vraiment une représentation mentale.
Parce qu'après, on se dit, un électron peut être en deux endroits à la fois, ce qui n'a pas le moindre sens. Ce genre de, parce que c'est superposé, il y a des situations superposées.
Non,
superposé
d'accord.
Convoque des choses. Non. Moi, quand j'enseigne la physique quantique, je parle de principe de composition. De combinaison. Parce que c'est une combinaison linéaire au sens...
D'accord.
Mais personnellement, superposition, je vois aussi chez les étudiants
avec
que ça éveille idée qui est profondément fausse.
J'accepte de ce point de vue. En tout cas, pour aller dans son sens, je crois qu'il est très important, quand on parle de physique quantique, de dire que le principe de superposition et de composition consiste à ajouter deux vecteurs d'état.
C'est ça.
Ce plus n'est pas un et.
Absolument.
L'électron n'est pas à la fois là et là, hein, et le plus de l'addition vectorielle des états n'est ni un ou ni un et.
C'est la clé de
tout. J'aurais une question générale. Vous avez mentionné à un moment le groupe, disons, dit Bondy-Metzner-Sachs, qui est effectivement la surface à l'infini, après une transformation conforme, a effectivement une géométrie carolienne. Mais quand on sait ça, on a envie de se dire « so what ?». Et ma question générale, c'est qu'est-ce que, y a-t-il un exemple que vous pourriez citer dans lequel l'interprétation en termes de géométrie carolienne a apporté un plus à la physique ou a permis de résoudre quelque chose en physique ?
Je vous renvoie la question parce que je suis incapable d'y répondre.
D'accord.
Je ne sais pas. Moi, je constate et je ne suis pas rentré, comme je l'ai dit, dans les détails de toute cette industrie carolienne dont, après tout, peut-être qu'elle va percuter très vite sur beaucoup d'autres sujets à la mode et qu'on n'en parlera plus dans 10 ans. C'est possible, hein, je ne fais pas une affaire. Hein. Donc, j'ai une très bonne question. Merci de m'avoir posé. Merci.
J'aurais une anecdote aussi.
Ah bah vas-y.
Non, c'est parce que vous avez mentionné le très bon film d'Hitchcock, Le rideau déchiré, dans lequel il y a un physicien américain joué par Paul Newman qui va en Allemagne de l'Est discuter avec le physicien est-allemand. Et effectivement, je me suis aussi fait la réflexion que Hitchcock n'a jamais vu deux scientifiques interagir. Mais il y a aussi un aspect que Hitchcock n'a pas du tout compris, c'est que dans le film, le gentil, c'est le physicien américain qui va discuter avec son collègue est-allemand, qui est le méchant. Mais en fait, c'est le physicien américain qui essaye de voler des secrets découverts par l'Allemand. Et moi, ça, pour moi, c'est le gentil.
Absolument.
Merci à Jean-Luc.